Bien, donc nous allons passer donc au temps numéro 2 de ces 4 cours donc, qui traitent de 4 crises, hein, comme j'ai expliqué la semaine dernière de la société chinoise. Donc, l'année dernière, on avait beaucoup travaillé sur l'époque contemporaine. Là, on fait une incursion dans l'histoire, mais l'histoire relativement récente. Donc, on avait vu la semaine dernière la première de ces crises, non pas que la Chine n'ait connu que, évidemment, 4 crises dans son histoire, et celle que dont on a parlé la semaine dernière, donc qui commence au début du 19e siècle, n'est évidemment pas la première de l'histoire de Chine, évidemment, mais enfin, c'est la première que l'on va traiter cette année. Donc, c'est celle de cette arrivée, de cette rencontre hein, mutuelle entre la Chine et le monde développé, pourrait-on dire, hein, puisque j'ai insisté là-dessus. Il ne faut pas parler du monde occidental, puisque le Japon devient très rapidement, et on va le voir encore aujourd'hui, un personnage absolument central, voire le personnage le plus important même, quasiment, de l'histoire de Chine à l'époque moderne. Et il reste d'ailleurs, comme vous avez vu dans l'actualité, un personnage, un partenaire important de la Chine. On a vu donc que cette première crise aboutit à une conclusion un peu étonnante, hein, la fin de plusieurs centaines, voire même quelques milliers, puisque d'années, hein, puisque en fait l'empire chinois tel qu'il fonctionne jusqu'en 1911 apparaît quelques siècles, mettons 3 siècles avant Jésus-Christ, donc on peut parler de millénaires, donc on peut parler au pluriel. Cet empire qui évidemment a évolué, hein, c'est pas le même système politique, c'est pas le même système économique exactement, etc. Mais enfin disons que les bases, les représentations, l'organisation sociale, politique et économique n'avait que relativement peu changé à travers les siècles, et bien, voilà ce qu'il ne faut pas faire, cet empire disparaît en 1911, et on a vu qu'il avait disparu en fait de lui-même, hein, c'est plutôt une implosion ou un écroulement sur lui-même, et c'est un point évidemment extrêmement important sur lequel nous allons tout de suite revenir. Ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est de traiter de l'époque de 1911 à 1949, en essayant un peu comme la dernière fois, de vous donner à la fois des indications factuelle, hein, sur un certain nombre de faits précis, relativement précis, et en même temps faire de l'analyse. Alors c'est jamais évidemment très facile, c'est beaucoup plus facile, ce serait beaucoup plus facile pour moi si vous étiez déjà des spécialistes un peu de cette période. C'est le jeu aussi évidemment de l'université populaire, mais donc ne m'en voulez pas, et dans les questions on essaiera peut-être de corriger un petit peu les choses s'il y a des équilibres entre l'analyse que l'on peut faire et les éléments factuels que je vais vous donner en même temps. Alors, je vais suivre un plan évidemment chronologique. C'est difficile de ne pas faire un plan chronologique quand on parle de l'histoire, évidemment, mais on verra, je vais faire un peu des retours, avancer un peu, faire des allusions à des choses qui se sont passées avant, qui se passeront après, mais disons le cadre restera évidemment chronologique. Alors premier point dans ce plan chronologique, le contexte général après la fin de l'Empire. Donc je reviens sur cette idée de chute de lui-même d'une certaine façon de l'Empire chinois, et ça a des conséquences évidemment extrêmement précises et extrêmement importantes, c'est qu'il n'y a pas de système politique alternatif qui se présente. Ce n'est pas une révolution, ce n'est pas des gens qui viennent avec une nouvelle idée de construire une nouvelle société. Ce n'est pas une révolution. On appelle ça la révolution de 1911, mais ça n'a rien d'une révolution si on considère qu'une révolution, c'est des gens qui veulent prendre la place de ceux qui occupent le pouvoir politique pour faire autre chose, hein, qui ont déjà des idées Hein, alors ça réussit pas, mais au moins ils ont un cadre, je dirais, philosophique, politique, un cadre conceptuel leur permettant tout de suite de mettre en place des structures, des institutions permettant de prendre le relais. Au contraire, 1911, c'est simplement la disparition de l'Empire, mais entre-temps, rien n'est apparu. Il n'y a pas de force véritablement politique qui permettent de prendre le relais. Il n'y a pas d'expression, on pourrait dire, des constitutions d'intérêts sociaux autour de classes sociales, autour de catégories sociales, etc. Certes, on a vu la dernière fois qu'il y avait une espèce de bourgeoisie qui commençait à se constituer, mais cette bourgeoisie est extrêmement faible. Elle est parce que globalement l'économie est limitée à quelques zones, hein, on a vu ça aussi la semaine dernière, et parce que l'économie chinoise est quand même très largement contrôlée par les étrangers, les puissances étrangères, donc il n'y a que peu d'espace, disons, pour cette bourgeoisie, et elle est surtout extrêmement fragmentée. En région, en demi-province, en quart de province, en ville, etc., etc. On a beaucoup plus, disons, des groupes, hein, d'entrepreneurs bourgeois ayant parfois, ayant des activités relativement étendues, mais qui ne constituent pas véritablement un milieu social organisé intellectuellement, philosophiquement, politiquement pour prendre le relais. Une autre force que l'on pourrait imaginer, c'est la classe ouvrière. Hein. La classe ouvrière, dans ces années-là, partout à travers le monde, commence à faire parler d'elle. Ça fait même déjà, dans un certain nombre de pays, ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle. Mais la classe ouvrière, c'est rien du tout. Hein. C'est quelques centaines de milliers, hein, d'ouvriers dans cette masse, évidemment, plusieurs centaines de millions de personnes. Il y a une petite bourgeoisie, il y a des professeurs, il y a etc., etc. Mais ces gens-là ont que peu d'impact sur le plan politique. Ils peuvent écrire des articles, ils peuvent s'organiser, créer, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, des cercles de réflexion, de discussion, etc. Mais ils ne constituent pas une force véritable sur lequel on pourrait s'appuyer pour créer d'une certaine façon d'autres institutions. On peut évidemment parler des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont toujours là. L'Empire a disparu, mais les gens physiquement, même s'ils sont plus fonctionnaires de l'Empire, ils sont tout de même fonctionnaires de l'État, hein, qui fait suite. Il y a une république qui est proclamée le 1er janvier 1912. Donc voilà, il y a une république, donc ils sont fonctionnaires de cette république. Ils sont bien placés évidemment pour avoir aussi du pouvoir, mais ça nécessiterait d'avoir un véritable État, hein, c'est-à-dire d'avoir véritablement un pouvoir qui s'exerce d'un point, la capitale, sur l'ensemble du territoire. Or, on sait très bien que la Chine n'est pas dans cette situation. La Chine n'est pas dans cette situation, pourquoi ? Bah parce que il y a bien évidemment les étrangers, hein, il y a les Japonais, les Français, les Anglais, qui sont extrêmement, les Russes, qui sont extrêmement présents dans tout le pays. Mais il y a aussi les militaires. C'est-à-dire qu'on a vu que le 19e siècle, c'est un siècle de constitution d'espèce de, entre guillemets, hein, féodalité. Hein, on a l'habitude d'utiliser ce mot un peu à tort et à travers, de féodalité, mais disons, ce que l'on appellera d'ailleurs à cette époque-là les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire ce sont des militaires fonctionnaires, hein, la différence est extrêmement faible, on l'a vu la semaine dernière, puisque souvent les fonctionnaires étaient obligés eux-mêmes de financer des armées pour lutter contre les Taiping, pour lutter contre les révoltes qui se développent, qui apparaissent un petit peu partout en Chine, donc c'est eux qui financent tout ça, donc on ne sait plus trop si ce sont des fonctionnaires ou des militaires, alors qu'auparavant, dans la vieille Chine, on avait vraiment deux groupes tout à fait différents, et les fonctionnaires qui étaient bien au-dessus, aussi bien en termes de prestige que de pouvoir, bien au-dessus des militaires. Là, on peut dire que le territoire est complètement éclaté, puisqu'il n'y a plus de, par définition, plus d'empire, en une multitude de groupes militaires, plus ou moins organisé. C'est un véritable patchwork, hein, la Chine à cette époque-là, et ça durera de 1911 jusqu'à 1927, hein, 27-28 même, voire même, on discutera un peu plus loin, un peu plus tard. La Chine est divisée en fait en espèce de territoire contrôlé par un seigneur de la guerre, qui a lui-même souvent des petits seigneurs de la guerre, c'est pour ça que le terme de féodalité n'est pas complètement hors de propos, une espèce de système de poupées russes comme ça, hein, qui s'emboîte relativement bien. Il y a des guerres sans arrêt entre ces seigneurs de la guerre, puisque de toute façon leur métier c'est de faire la guerre. Et l'activité principale du seigneur de la guerre c'est quoi? C'est de piller évidemment le territoire. Hein. En général, quand on est dans ce genre de situation, quand il n'y a plus de cœur politique, on pourrait dire, quand le pouvoir est totalement laissé dans les mains des militaires et que les militaires eux-mêmes n'ont pas tellement d'ambition finalement de remettre vraiment un pouvoir politique en marche. Hein. C'est pas Franco qui fait un coup d'État pour prendre le pouvoir à Madrid sur l'ensemble de l'Espagne, pas du tout, parce que précisément si évidemment l'objectif était celui-là, ben les autres seigneurs de la guerre seraient évidemment pas très contents. Hein. C'est un véritable éclatement en fait du territoire en féodalité sans que véritablement on ait des gens qui puissent réunifier tout ça et contrôler des territoires relativement étendus. Il reste un gouvernement à Pékin, et il va rester un gouvernement à Pékin en fait jusqu'en 1927, jusqu'en 1928, jusqu'à ce qu'on verra Chiang Kai-shek et le Kuomintang et ses alliés, pour pas très longtemps, et ses alliés communistes vont réussir à réunifier à peu près, on verra, le territoire. De 1911-1927, la Chine va avoir des gouvernements officiels. Je dois vous avouer que je suis absolument incapable, et même les spécialistes de la période, de vous citer les noms des gens qui sont théoriquement premiers ministres, etc. Parce que tout simplement, ces gens-là gouvernent à peu près Pékin, hein, à peu près les frontières de Pékin, et puis après, en dehors, ils n'ont absolument plus aucune autorité. Donc c'est absolument pas important de parler de ce personnage. Mais nominalement, il y a, officiellement, un gouvernement sur place. Alors, donc ce qui est très important ici, et c'est une donnée, je crois, de toute l'histoire du XXe siècle, et sans doute jusque dans les années 80, on pourrait dire, c'est que la chose militaire est la chose fondamentale, hein, qu'il faut avoir dans la tête quand on parle de l'histoire de la Chine au XXe siècle. En tout cas entre 1911 et même peut-être un peu avant, jusque dans les années 80, c'est que finalement le pouvoir est au bout du fusil. Hein. C'est une phrase de Mao, mais sur ce plan-là, Mao avait tout à fait raison. La force, c'est parce que finalement les seuls qui ont un impact politique, qui ont un pouvoir, les seuls qui sont dans une espèce de situation complètement chaotique, les seuls finalement qui peuvent se faire un peu respecter, c'est les gens qui ont des fusils. Et on va le voir, hein, on va le voir à travers les seigneurs de la guerre, mais aussi la conquête du pouvoir par le Kuomintang, qui est une guerre de conquête, mais aussi la victoire en 1949, hein, on va juste aller jusqu'à 1949, on parlera pas de la suite, on en parlera la semaine prochaine, mais jusqu'en 1949, c'est une victoire militaire, avant tout. Ce n'est pas véritablement une victoire politique, on pourrait dire, ce n'est pas une révolution politique, c'est une armée contre une autre armée. Hein. Alors derrière, il y a des objectifs politiques, évidemment, mais bon, tout pouvoir, encore une fois, militaire, qui a comme ambition la réunification du pays, là aussi on peut reprendre l'exemple de Franco dont je parlais tout à l'heure, a évidemment un objectif politique. Hein. Donc, vous voyez, la déconnexion, enfin, les rapports entre militaire et politique sont toujours évidemment des rapports qui sont un petit peu complexes. Mais 49, c'est aussi fondamentalement une victoire militaire. Et ensuite, on peut dire que même jusque dans les années 80, l'armée, la question militaire, va continuer à jouer un rôle très important dans l'histoire. Il faut attendre les années 80, Et encore, on pourrait considérer que aujourd'hui encore, hein, les questions, vous voyez, de territoire, etc., jouent encore un rôle, hein, et pas simplement pour la Chine, mais dans la région de manière générale. Les questions militaires, les questions de territoire, les questions de puissance jouent un rôle très, très, très important. Mais en tout cas, jusque dans les années 80, hein, si on peut dire qu'aujourd'hui les choses sont un peu plus compliquées, jusque dans les années 80, le pouvoir continue à être au bout du fusil. Hein. On a la guerre de Corée, à laquelle la Chine va participer de manière assez forte. Et d'ailleurs, il semble bien que c'est grâce à la guerre de Corée que la Chine va réussir à avoir l'arme nucléaire, parce qu'il y aura un deal avec Staline pour certains équipements, pour certains éléments. Enfin, en tout cas, c'est pas encore très clair tout ça. Il faudra attendre encore quelques années pour en savoir sans doute un petit peu plus. Mais il y a un lien quand même qui est relativement important. Et tout évidemment, les questions de répression, évidemment, la police intervient, mais l'armée aussi est toujours là. Et la révolution culturelle, d'une certaine façon, peut être considérée comme une opération militaire aussi, hein, en tout cas l'opération qui a consisté, à la fin de la révolution culturelle, à remettre de l'ordre à l'intérieur du pays. Donc il faut vraiment avoir cette idée en tête, hein, que le XXe siècle, en Chine, d'une certaine façon, a été extrêmement, très très largement militaire. D'ailleurs, en 1912, très rapidement, hein, le docteur Sun Yat-sen, hein, j'ai parlé la dernière fois, qui est élu président de la République en 1912, doit quasiment immédiatement quitter son poste de président de la République au profit d'un personnage qui régner entre guillemets que quelques années, puisqu'il va disparaître en 1916, mais qui est en fait un fonctionnaire militaire dont je parlais tout à l'heure, hein, quand je dis il va régner, c'est qu'il va essayer de rétablir l'Empire. Donc vous voyez qu'on est dans des espèces de zones un petit peu, vous voyez, un petit peu chaotiques et un peu bizarres, où le personnage qui normalement est président de la République va essayer de rétablir l'Empire et de créer une nouvelle dynastie. Donc on n'en a pas complètement fini avec l'Empire, on pourrait dire. En tout cas, on n'en a pas complètement fini avec l'aventure militaire, la façon dont on, évidemment, gérait de manière importante le pays durant l'Empire, c'est-à-dire avec quand même une implication militaire relativement importante. Alors, ce qu'il faut dire aussi sur ces seigneurs de la guerre, bon, terminer avec ces seigneurs de la guerre, c'est que ils jouent un rôle aussi important, extrêmement trouble, dans le contrôle qu'opèrent les puissances étrangères sur la Chine, parce qu'il y a des alliances qui se font extrêmement complexes. Hein, c'est une spécialité en tant que telle que de suivre ce qui s'est passé à cette époque-là sur ce plan-là, des relations entre les seigneurs de la guerre et les différentes puissances étrangères. Il y en a qui s'allient avec les Français, d'autres avec les Anglais, avec les Japonais, il y a trahison, on change de maître, etc., etc. Il y a un jeu extrêmement, extrêmement complexe dont on a quelques échos dans le célèbre album de Tintin, le Lotus Bleu. On voit un petit peu, hein, ce milieu extrêmement trouble, etc. Donc, ces seigneurs de la guerre sont financés aussi par des puissances étrangères. Hein. Donc, on est, rappelons-nous aussi, hein, cette présence étrangère continue jusque quasiment 1949 et qui joue un rôle important. Évidemment, chacun joue sa partie. Hein. Il n'y a pas de... Personne ne se fait avoir. Enfin, on peut se faire avoir, mais chacun joue le jeu, en tout cas. Hein. Les seigneurs de la guerre essayant d'étendre leur contrôle, leur zone de contrôle, les étrangers essayant eux aussi, hein, de contrôler indirectement, hein, et c'est beaucoup moins coûteux évidemment, un certain nombre de territoires qui les intéressent essentiellement d'ailleurs pour faire du commerce, hein, pour il y a toujours un objectif de sauver les âmes, hein, on en avait un petit peu parlé, mais enfin c'est quand même secondaire. Ce qui est important quand même, c'est le commerce, le contrôle d'un certain nombre de richesses. Alors, Deuxième point, dans notre avancée, malgré tout, il y a des nouveaux événements, il y a des nouveaux phénomènes qui apparaissent dans cette période, donc, disons, 1911 jusqu'en 1927. Alors, le premier changement assez radical quand même, c'est que la chute de l'Empire a quasiment fait disparaître toute velléité de s'appuyer sur la tradition pour résister aux étrangers. À partir de 1911, toutes les ambitions un peu de l'impératrice Cixi et d'un certain nombre de gens autour d'elle qui est de considérer que finalement la Chine est en décadence parce que justement elle n'est pas capable de camper solidement sur ses traditions et qu'elle est influencée par des mauvais génies. Toutes ces théories, tout ce cadre conceptuel est complètement abandonné. Dorénavant, on peut dire que tout le monde considère que la seule chance de la Chine, c'est la révolution. C'est la révolution nationale, on pourrait dire. Alors, c'est évidemment pas celle du maréchal Pétain, c'est évidemment différent. Enfin, sauf que des gens qui avaient comme ambition de faire quelque chose qui n'était pas si éloigné aussi, d'ailleurs, du maréchal Pétain. Mais enfin, bon, on en reste quand même là à des traditions plus locales. Disons que tout le monde considère toutes les forces politiques, tous les penseurs, avec des moyens différents, mais tous pensent évidemment qu'il faut vraiment complètement moderniser la société chinoise. Il faut révolutionner la société chinoise pour s'imposer aux étrangers. Ces deux éléments, révolution plus nationalisme, sont des éléments qui sont vraiment extrêmement importants et sur lesquels on aura l'occasion de revenir à plusieurs reprises. C'est fini les gens qui se réfèrent au passé. La Chine ancienne est terminée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore quelques rêveurs, etc., etc., dans un coin, mais ces gens-là ne jouent plus un rôle essentiel. Et on verra que qui dit national, qui dit révolution, dit pouvoir fort. Ça aussi, c'est un élément sur lequel on reviendra. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas des partisans de la modernité, de la modernisation. On va le voir aussi. Il y a des gens qui sont partisans d'une démocratie. La vraie modernisation, c'est la démocratie. Mais très rapidement, ces gens, la voix de ces gens, sont couverts par des nécessités militaires, des nécessités révolutionnaires, qui font que l'idée démocratique apparaît comme une idée certes intéressante et passionnante, mais qui n'a pas d'impact véritablement sur la réalité. Mettre en place des institutions démocratiques, c'est compliqué, c'est long, etc., alors que les tâches pratiques, les tâches présentes sont immenses. Donc très rapidement, on verra des gens être très démocrate, voire même tout un mouvement anarchiste qui s'est développé en Chine, au nom de la liberté, etc., etc. Et même des personnages comme Mao, par exemple, n'étaient pas insensibles. On dit qu'il a été anarchiste, ça veut pas dire grand chose. Il n'y avait pas des estampilles à un moment donné sur le front ou des choses comme ça. C'était beaucoup plus des cercles, disons, libertaires qui regardaient du côté de Kropotkin, de Bakounine, de Tolstoï aussi, qui était relativement aussi, qui avait une influence aussi importante vis-à-vis de ces gens. Donc des gens qui réfléchissaient à la liberté dans la société chinoise, comment la construire, etc., etc. Donc évidemment, il y a un courant de ce type-là. Mais ces gens-là, on va très rapidement les voir dans d'autres cercles politiques. Mao, évidemment, rapidement, va devenir tout à fait autre chose qu'un anarchiste ou un démocrate, évidemment, on le verra, et on le verra relativement vite. D'autres vont devenir des gens qui vont finir à Taïwan dans des cercles fascisants, tout à fait conservateurs, etc., etc. On voit très bien qu'il y a une espèce de moment dans les années 1910-1920 où on brasse des idées, et puis très rapidement, face aux événements. Et vous voyez que les événements, avec cette Chine chaotique, divisée, etc., sont des événements qui sont au présent, qui poussent les gens à agir, etc. Très rapidement, quand les gens commencent à être obligés d'agir, de choisir, hein, de faire des actions, très rapidement, ils abandonnent ces idéaux pour rentrer dans différentes formes, hein, de réflexion sur le pouvoir de gauche, le pouvoir de droite, le pouvoir communiste, etc., etc. Donc, on a ce milieu, je dirais, cette intelligentsia très moderniste, hein, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est puissant. On lit beaucoup de philosophes, on traduit à l'époque énormément de gens. Il y a des féministes qui apparaissent, qui luttent notamment contre, évidemment, la pratique notamment des pieds bandés, etc., etc. On demande des droits politiques, justice sociale, etc., etc. Et ce mouvement d'intelligentsia, donc qui est un phénomène quand même relativement nouveau, en tout cas sous cette forme très radicale, hein, où on dit cette fois-ci il faut que la Chine devienne une société totalement moderne et qu'elle perde la plupart de ses caractéristiques chinoise d'une certaine façon, hein. Il y a une nécessité un peu de révolution culturelle, on pourrait dire, mais au sens plein du terme, hein, non pas avec le sens que prendra l'expression dans quelques années. Donc cette agitation très moderniste donc va culminer dans un mouvement qu'on appelle le mouvement du 4 mai 1919. Et qui a un rapport très direct avec le traité de Versailles. Alors, ça peut paraître, évidemment, le traité de Versailles, c'est très bizarre. Pourquoi le traité de Versailles et la Chine? Parce que, on voit bien que la Chine, malgré tout, est devenue quand même un personnage de l'histoire mondiale, elle est rentrée dans l'histoire mondiale, c'est que la Chine a participé à la Première Guerre mondiale. Hein. Elle a déclaré la guerre à l'Allemagne, dans un objectif qui était très simple, qui était de récupérer les colonies qui appartenaient à l'Allemagne, et notamment la ville de Qingdao, dont vous avez peut-être, certains d'entre vous ont été, une station balnéaire, hein, où on fait de la bière depuis l'occupation allemande. Évidemment, il n'y a pas eu de combat véritablement, hein, les Allemands s'occupaient évidemment d'autre chose à l'époque, en 14-18, que du contrôle de leur colonie en Chine. Donc ça a été évidemment, c'était totalement utilitariste, on pourrait dire. Hein, ça a été, mais la Chine a déclaré la guerre et attendait que, évidemment, une récompense. La récompense était quoi? C'était de récupérer ces territoires, Qingdao et un certain nombre d'autres territoires dans la province du Shandong. Ok, qu'est-ce que fait le traité de Versailles? Il explique que les possessions de l'Allemagne vont être données au Japon. Eh oui, parce que le Japon aussi avait déclaré la guerre, comme vous savez peut-être aussi, évidemment, à l'Allemagne. Hein. L'Autriche était du côté, là aussi, relativement théorique, hein, comme déclaration de guerre, mais malgré tout. Et évidemment, ce mouvement a déclenché donc des protestations, notamment dans les milieux étudiants, l'intelligentsia, il y a eu des manifestations, il y a eu des boycotts, il y a eu tout un tas d'éléments. Et ça joue encore un rôle relativement important aujourd'hui. Hein. Tout le monde sait en Chine, et c'est d'ailleurs, il y a des manifestations autour du 4 mai 1919, c'est un peu une date de... On pourrait dire la renaissance, on pourrait dire, intellectuelle de la Chine. Mais vous voyez que cette renaissance intellectuelle de la Chine n'est pas vraiment une renaissance. Hein, parce que la renaissance, ça veut dire qu'il y a eu une naissance et puis on s'appuie sur cette naissance pour renaître. C'est pas le retour au passé, hein, que l'on va redynamiser, mais au contraire, c'est dans le sens d'une renaissance, mais d'une création de quelque chose. C'est plutôt une naissance, d'une certaine façon, de la Chine moderne, hein, en tout cas sur le plan intellectuel. On est très très loin dans la réalité d'une Chine moderne, hein, évidemment, hein, même d'écrire la situation, mais intellectuellement, hein, on annonce que c'est fini maintenant, hein, donc on va par exemple abandonner la tradition qui consistait à écrire en chinois littéraires, et on va écrire en chinois de la rue, hein. Alors chinois de la rue, ça ne veut pas dire qu'on va écrire comme dans les banlieues, hein. Chinois de la rue, c'est-à-dire le chinois que l'on parle, hein, le chinois littéraire, hein, bien évidemment, mais pas le chinois quasiment incompréhensible que l'on utilisait à l'époque, hein. À l'époque, si vous voulez, c'est comme d'un côté un petit peu au XVIIe siècle, on utilisait le latin quand on écrivait, on utilisait le français quand on parlait. Voilà, c'était à peu près comme ça. On avait une langue qui était du chinois, mais complètement incompréhensible pour la plupart des gens. Et à côté de ça, donc un chinois qui pouvait être un chinois assez beau, assez châtié, assez littéraire, mais qui était un chinois compréhensible, on pourrait dire, par la plupart des gens. Donc, renaissance intellectuelle très 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 importante. Ah, vous voyez une contradiction, hein, qui est une contradiction que l'on a déjà vue un peu, mais qui éclate et qui va continuer d'éclater, c'est que les gens qui sont dans ce milieu intellectuel, les étudiants, sont à la fois occidentalisés totalement, puisque ils apprennent des langues étrangères, puisque pour eux la tradition chinoise est mauvaise, hein, il faut s'en débarrasser, donc il faut s'occidentaliser, et ils le disent même assez fortement, hein, les gens qui disent il faut s'occidentaliser, il faut lire Karl Marx, il faut lire Nietzsche, il faut lire toute la tradition intellectuelle, hein, les Grecs, etc. Donc on s'occidentalise d'une certaine façon, on va dans des universités créées par les étrangers, ou sous les impulsions des étrangers, on va à l'étranger faire des études, mais en même temps, on s'oppose aux étrangers. Hein. C'est tout évidemment, hein, la situation n'est pas que celle de, on ne trouve pas cette situation qu'en Chine, on trouve dans tous les pays colonisés, où en fait on a cette élite intelligentsia occidentalisée qui est nationaliste en même temps. Hein, et on sait très bien que dans toute l'histoire de la colonisation, hein, dans les années 50, dans les années 60, c'est basé là-dessus, qui va se révolter contre la colonisation? Ça va être les gens qui seront complètement occidentalisés. Hein. Ce sont les médecins, ce sont les intellectuels, ce sont les juristes qui vont être à la pointe de la lutte anticoloniale. Hein. Certes, les troupes militaires, quand il y a des troupes militaires, vont être constituées de gens du pays, mais les gens qui sont à la tête de ces mouvements anticolonisation sont souvent des gens qui ont été éduqués à très haut niveau par la puissance colonisatrice. Donc on voit bien là la contradiction, où on est à la fois être moderniste, c'est être anti-étranger, d'une certaine façon. Alors que auparavant, être anti-étranger, c'était plutôt être chinois, encore plus chinois même que ce que l'on pouvait, imaginer. Alors, fait nouveau aussi à cette époque, nouveaux événements, la création de deux partis qui vont jouer évidemment à l'avenir un rôle extrêmement important. Le Kuomintang. Alors, bon, vous avez deux écritures. Je vous en donne une, mais l'autre n'est pas tellement différente. C'est G-U-O-M-I-N-D-A-N-G, hein, qui veut dire le parti du peuple, on pourrait dire, hein, pour dire les choses simplement. En 1912, sous la houlette toujours de ce Sun Yat-sen, dont j'ai pas tellement parlé la semaine prochaine, mais dont on peut dire deux mots, lui aussi est un personnage de l'époque, et qui montre que la Chine a changé. Alors c'est pas un intellectuel, au sens quelqu'un qui aurait fait des études à l'université, dans les grandes universités, etc., mais c'est tout simplement un Chinois d'outre-mer. Mais oui, parce que, chose qui était absolument impensable avant les années 1850, les Chinois commencent à quitter la Chine et à aller ailleurs, hein, dans le monde entier, hein, y compris aux États-Unis. Là, vous pouvez lire Lucky Luke, hein, des choses là, sur les Chinois qui vont construire les chemins de fer, etc. etc. Voilà. Donc il y a une diaspora chinoise qui est très importante. Alors cette diaspora chinoise reste très très en contact. Hein, c'est pas comme aujourd'hui où, évidemment, il y a 3-4 générations parfois, hein, de Chinois qui habitent, qui n'ont jamais été en Chine parfois, hein, qui habitent la France ou d'autres pays. Là, les liens étaient encore étroits. Et ce monsieur Sun Yat-sen est un produit, hein, c'est un docteur, donc, mais il a été entièrement élevé dans les milieux. Dieu de la diaspora, notamment américaine, etc. Parle très bien anglais, etc. Donc personnage, mais vous voyez, personnage nationaliste. On est dans la diaspora, on a des intérêts à l'étranger, évidemment, mais on reste tout à fait profondément chinois. Donc ce personnage, qui a été élu donc président de la République en 1912, mais éjecté assez très rapidement, donc a créé en 1912 ce Kuomintang, très rapidement va se transformer en une force militaire. Vous voyez qu'on n'échappe pas à la chose militaire. C'est un parti politique, mais dès 1918, en fait, le Kuomintang crée dans la ville de Canton, donc tout à fait au sud de la Chine, un gouvernement, donc concurrent du gouvernement théorique de Pékin, un gouvernement qui ne contrôle pas grand-chose non plus, si ce n'est la région de Canton, mais qui commence à se militariser très rapidement. Ce gouvernement va devenir en fait une force militaire. On va le voir un petit peu plus loin. Ce docteur Sun Yat-sen mourra en 1925. Vous voyez, c'est un peu le Lénine, on pourrait dire, chinois sur ce plan-là, si on veut un petit peu simplifier les choses. Mais il y a la même situation d'une certaine façon, c'est-à-dire que la même façon que la mort de Lénine ouvre une espèce de situation où les successeurs vont se résolument se taper dessus pour contrôler le parti, on a la même situation. Sun Yat-sen meurt. Il y a une lutte de pouvoir, mais la lutte de pouvoir va être relativement de courte durée, mais va continuer en fait en sous-main, on va voir quelques exemples plus tard. Et c'est donc Chiang Kai-shek, donc ce personnage donc qui est lui quand même très très connu, qui va prendre en main les destinées du parti. Autre événement évidemment qui au départ est un événement, un micro-événement, c'est la création du Parti communiste chinois. En 1921, très difficile de savoir ce qui s'y est passé parce que tout le monde se fichait du Parti communiste chinois à l'époque. Ils étaient quelques dizaines de personnes. C'était vraiment un truc qui n'existait quasiment pas. Le congrès fondateur s'est terminé sur un bateau pour échapper un peu à la police, parce que la police quand même surveillait un peu ce qui se passait dans ces milieux-là. Donc, création du Parti communiste en 1921, qui est un parti au départ très urbain. Les gens qui sont les créateurs de ce parti sont des intellectuels, donc évidemment des urbains, pas d'ouvriers évidemment, quasiment pas d'ouvriers au départ, mais ça c'est aussi relativement courant dans un certain nombre de pays au début en tout cas. Donc ce parti se crée, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau, d'ailleurs ça n'a pas changé grand chose en 1921, mais enfin bon, on sait bien que ça va finir par changer quand même quelque chose. Autre facteur qui va aussi changer quelque chose, et on voit bien là aussi que le monde à cette époque-là s'est étendu, et c'est une phase de globalisation quand même assez importante, on l'a vu à travers la guerre de 14-18, qui est quand même un phénomène de globalisation, on pourrait dire, mais on va le voir aussi autrement, c'est la révolution de 1917. Pourquoi révolution 1917 ? Pour deux raisons. La première raison, d'abord, parce que, évidemment, c'est lié à ce qui s'est passé en 1921. S'il y a un parti communiste chinois, c'est parce que d'abord il y a un parti communiste de l'Union soviétique, bien évidemment. C'est en lien évidemment que ça s'est créé. Et que dans le même temps, évidemment, ça donne des idées à un certain nombre de gens, puisque finalement, cette révolution d'octobre est quand même elle est très ambiguë parce que c'est à la fois une révolution nationale et une révolution internationale. C'est-à-dire que c'est une révolution nationale, donc ça concerne un pays bien précis, mais en même temps, ça donne des idées à d'autres, puisque précisément, cette révolution est censée aussi pouvoir se passer ailleurs. Une espèce d'ambiguïté par rapport à ça qui est importante. Et d'ailleurs, justement, le mouvement communiste international sera toujours très ambigu par rapport à ça. La révolution est à la fois nationale et internationale. Hein, bon. Donc c'est un événement sur ce plan-là qui est important. Et le deuxième élément, c'est que l'URSS a besoin de soutien. Elle a besoin de soutien et elle lorgne évidemment sur ce qui se passe du côté du Kuomintang, hein, ce Sun Yat-sen qui n'est pas insensible aux idées évidemment du parti bolchevique, qui est très anti-étranger aussi, hein, il y a ce côté anti-capitaliste, hein, on va en reparler, hein, la révolution nationale est aussi anti-capitaliste. L'URSS très très vite va trouver du côté du Kuomintang, de Sun Yat-sen et du Parti communiste, mais le Parti communiste est un micro-parti, va trouver un appui, hein, relativement important. Et il y a un rapprochement qui est quasiment immédiat avec ce groupe qui très rapidement, on va le voir, va être armé, formé, par l'URSS, hein, très rapidement, la reconquête du territoire chinois par le Kuomintang va se réaliser essentiellement grâce à l'aide de l'Union soviétique. Autre élément important, c'est que paradoxalement, entre 1917 et 1927, sur le plan économique, la Chine va connaître ce que l'on appelle l'âge d'or du capitalisme. Hein, l'âge d'or du capitalisme chinois, c'est ces années 1911-1927. Alors ça peut paraître évidemment très curieux, parce qu'on est dans une phase de chaos à peu près total, il n'y a pas de gouvernement, les étrangers sont partout, les seigneurs de la guerre se tirent dessus. Comment on a pu avoir un développement économique aussi important? Ben parce que la chute de l'Empire en 1911 a laissé les mains totalement libres, ou quasiment totalement libres, aux capitalistes chinois dont je parlais tout à l'heure, aux hommes d'affaires, dont les activités sont limitées, mais qui sont des hommes d'affaires malgré tout. Cet empire chinois qui contrôlait quand même tout ça, avec des fonctionnaires corrompus, etc., qui faisaient pas grand-chose, mais qui embêtaient un peu tout le monde, ces gens-là disparaissaient. Donc cette situation chaotique est finalement, semble-t-il, en tout cas, hein, si on voit l'exemple chinois, relativement bénéfique pour le développement, hein, de ce capital. Donc on voit la création de chambres de commerce, de groupements d'hommes d'affaires, de commerçants, etc., qui profitent de la situation du vide politique dont je parlais tout à l'heure. Alors, il s'arrange avec les seigneurs de la guerre, évidemment, hein, mais, disons, entre hommes d'affaires, hein, puisque la guerre est devenue une entreprise de business, hein, donc entre hommes d'affaires, on s'entend relativement bien. Hein, on s'échange des choses. Bon, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a quelques soubresauts, mais globalement, on voit le développement relativement rapide, hein, de ce capitalisme qui profite du manque d'État, hein, pour se développer. Alors, la deuxième raison qui explique, c'est précisément la guerre qui explique ce développement. C'est la guerre en Europe. La guerre en Europe laisse à l'industrie chinoise ouvre un boulevard à l'industrie chinoise, parce que précisément l'Europe ne peut plus fournir à l'Asie aucun des produits qu'elle pouvait fournir, voire même sur certaines côtes africaines, en Océanie, etc. Hein, il y a un développement de toutes ces zones-là, un petit peu d'ailleurs ce qui se passe en Amérique latine. Vous savez, l'Amérique latine, 14-18, ça a été une aubaine aussi pour cette région, hein, ça s'est beaucoup développé. Les économies européennes sont essentiellement tournées vers l'armement, etc. Donc ils ont besoin de produits, eux aussi, ils importent de plus en plus, etc. Donc c'est vraiment, quand on regarde les chiffres, on est absolument étonné du dynamisme hein, de cette économie. Alors cette économie n'est pas, c'est pas qu'une économie chinoise entre-temps. Les étrangers sont toujours là. Hein. Évidemment, les étrangers sont un petit peu moins actifs, mais ils le sont quand même toujours. Les Japonais, eux, sont encore plus actifs parce qu'ils ont théoriquement déclaré la guerre, mais en réalité, ils s'occupent évidemment de, d'abord de leurs propres affaires. Donc, on a ce développement. Jusqu'en 1927, pourquoi ? Bah parce que le temps que l'économie européenne reparte, hein, vous savez, les années 1919, 20, 21, ça met du temps, hein, et en fait, ce dynamisme va se poursuivre encore quelques années. Alors, pourquoi ça s'arrête en 1927 ? Bah sans doute... l'essoufflement quand même parce que de nouveau là, l'Europe se remet avant la prochaine crise elle se remet un petit peu d'aplomb et puis parce que comme on va le voir le Kuomintang reprend le pouvoir hein, et on voit bien là on va en reparler mais que le Kuomintang lui il aime pas du tout le capitalisme hein, en tout cas ce genre de capitalisme hein, il aime bien le capitalisme qui est contrôlé par l'État. Il aime bien le capitalisme qui rapporte aux fonctionnaires, donc est orienté de manière très très directe par les instances politiques. Mais ce développement de ce capitalisme un peu spontané, un peu libéral comme ça, ça il aime pas. Il aime pas du tout. Une autre raison aussi, c'est que l'essoufflement vient de l'absence d'État. C'est paradoxal, évidemment, vous me direz. Hein. D'un côté, on va avoir beaucoup trop d'État avec le Kuomintang qui veut tout contrôler. D'un autre côté, pas assez d'État, bah parce que le capitalisme, au bout d'un moment, on sait bien, a besoin de routes, il a besoin de stabilité, il a besoin d'ordre, il a besoin d'un peu de discipline, il a besoin de politique globale. Il a besoin de réseaux commerciaux, il a besoin d'organisation des marchés, il a besoin de régulation, etc., etc. Il a besoin d'un État. Hein, un capitalisme qui se développe sans État est en général un capitalisme qui, au bout d'un moment, s'essouffle parce qu'il est incapable lui-même de générer tout un ensemble d'infrastructures, de systèmes de régulation, etc., etc. Alors, Mais en même temps, j'insiste de nouveau sur ce point, ce capitalisme qui se développe est un capitalisme extrêmement mal réparti sur le territoire. C'est-à-dire qu'on en reste toujours dans ces grandes villes hein, où les choses se développent de manière rapide, hein, avec toujours Shanghai qui est vraiment le poumon, hein, de l'économie. Qui, suivant les années, à lui tout seul réussit à produire 30 ou 40% de l'ensemble du PIB, de l'ensemble du pays, hein, donc des chiffres très importants. On a un certain nombre d'autres villes. Pour l'essentiel, c'est quelques villes le long de la côte, hein, et on n'échappera pas jusqu'à quasiment aujourd'hui même, hein, à ce genre de phénomène. En ce moment, les politiques qui sont mises en place sont des politiques qui essayent de faire avancer un peu, le développement économique à l'intérieur du pays, avec un certain nombre de succès d'ailleurs, hein, ça marche pas trop mal, jusqu'à quand on ne sait pas, pour l'instant ça marche pas trop mal, mais on est encore aujourd'hui dans l'héritage de cette époque hein, qui a commencé au XIXe siècle où l'économie chinoise c'est essentiellement un certain nombre de grandes zones de la côte. Alors troisième temps hein, de cette histoire, l'État nationaliste, l'État Kuomintang qui va se mettre en place en 1928. Alors comment ça se passe, cette réunification du territoire, puisqu'on a, on a cette réunification du territoire. Au début, on a un gouvernement qui contrôle Canton. La date charnière, c'est 1926. En 1926, poussée d'ailleurs par l'URSS, encore une fois très présente dans la région, le Parti communiste et le Kuomintang décident de créer ce que l'on appelle un front uni. Hein, c'est un terme que l'on utilise même encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un front uni ? C'est un groupement de partis politiques Le parti d'ailleurs communiste va continuer aujourd'hui à utiliser ce terme. Par exemple, quand on parle en ce moment des rapports entre le parti communiste et le Kuomintang, donc qui existe toujours à Taïwan, le parti communiste utilise encore cette expression de front uni. Le front uni, c'est ces deux forces, hein, essentiellement, donc parti communiste et Kuomintang, qui sont censés à un moment donné se regrouper pour opérer un certain nombre d'actions militaires ou politiques, etc. Le parti communiste à l'époque, c'est très peu de choses, hein, c'est un tout petit parti urbain. Le Kuomintang, par contre, c'est une force politique très importante. C'est une force politique très importante parce qu'elle rassemble l'essentiel, je dirais, des couches sociales dynamiques dans la société chinoise. Dans le Kuomintang, on trouve de tout. On trouve des capitalistes, des gros, des petits, des moyens, on trouve des intellectuels, on trouve des gens qui appartiennent, ce qu'on pourrait dire, à la petite bourgeoisie. On trouve même, un peu plus marginalement, mais on trouve aussi des ouvriers. Hein, le Kuomintang va créer un syndicat, Kuomintang, pour être présent. C'est un espèce de parti qui, lui, se présente un petit peu comme un parti... on pourrait dire unique entre guillemets. Sa philosophie, c'est de représenter l'ensemble des intérêts du peuple chinois. Donc c'est extrêmement large, hein, et en même temps c'est extrêmement ambitieux. On voit bien que ce parti a comme vocation d'être le seul, d'une certaine façon, puisqu'il représente, ou il est censé représenter, il se présente comme ça, comme représentant l'ensemble des intérêts du peuple chinois. Alors, ce Kuomintang en même temps est très éclaté, hein, il y a des luttes, Chiang Kai-shek est détesté par tout un tas de gens, enfin je vous passe les détails, on verra quelques éléments plus loin. On a une aile gauche notamment qui est assez proche du PC, hein, qui n'est pas, qui ne veut pas, évidemment qui est dans le Kuomintang et non pas dans le Parti communiste, donc c'est une distinction, mais qui en même temps est vraiment fermement attachée à cette alliance avec le parti. Chiang Kai-shek, lui par contre, il n'aime pas trop le Parti communiste, c'est un euphémisme, dès le début. C'est une espèce d'alliance entre tout à fait utilitaire. Hein. Chiang Kai-shek déteste le Parti communiste parce qu'il trouve justement que les liens sont trop étroits avec l'Union soviétique. Chiang Kai-shek a besoin d'Union soviétique, hein, notamment pour former, on va le voir, des militaires, pour avoir des équipements, des canons, etc., etc. Mais d'emblée, il se sent complètement concurrent, hein, avec le Parti communiste et avec les objectifs de l'Union soviétique en Chine. De la même façon, le Parti communiste, évidemment, on n'a aucune confiance dans Chiang Kai-shek. Pour le Parti communiste, dès le départ, Chiang Kai-shek est représentant du capitalisme apatride, affreux, etc. C'est la bourgeoisie, etc., etc., etc. Donc on est vraiment sur, là, des oppositions très radicales. Il n'empêche que les deux forces s'allient parce que c'est la seule solution pour réussir à reconquérir l'ensemble du territoire. Le PC est tout petit, mais derrière il y a l'Union soviétique. Le Kuomintang est très gros, mais derrière il n'y a rien. Le Kuomintang ne peut pas s'appuyer évidemment sur les puissances étrangères parce que les puissances étrangères n'ont aucune véritable envie de voir ce pays être réunifié. C'est toujours l'ambiguïté de la politique des puissances. Hein. On n'aime pas trop que la Chine soit dans un état de chaos, évidemment, parce que c'est un peu embêtant pour les affaires. En même temps, on a peur d'une Chine réunifiée, d'une Chine puissante. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire après tout ça ? Il y a cette inquiétude qui est toujours présente, évidemment, dans l'état d'esprit des Occidentaux. Alors, il y a une partie hein, de l'opinion politique occidentale qui est en faveur. Hein, il y a des gens qui écrivent des livres pour soutenir le Kuomintang, qui trouvent que c'est très bien, la modernisation, etc., etc. Mais quand on lit, par contre, les livres qui sont écrits par les gens qui habitent sur place, hein, essayez de trouver ça chez les bouquinistes, c'est absolument affreux, quoi. C'est-à-dire, eux, ils sont totalement contre le Kuomintang, ils trouvent que c'est très très bien, que c'est tout à fait normal que ça soit chaotique en Chine. toute façon, les Chinois sont des abrutis absolus, des gens dangereux, fourbes, cruels et nombreux, etc., etc. Donc, il y a cette dichotomie. Donc, il n'est pas question, et là, pour le gouvernement, qui a malgré tout des liens avec les gens qui sont installés en Chine et qui font du business, de soutenir une force comme le Kuomintang. Donc, on a besoin les uns des autres. Mais à la première occasion, on sait bien que tout ça va craquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lance une opération militaire. Hein, il y a une armée qui se constitue dans le sud de la Chine. Et on lance les troupes à la reconquête. Hein, ça s'appelle, en Chine, on appelle ça l'expédition vers le nord. Peifa, l'expédition vers le nord. Donc, qui consiste à réunifier l'ensemble du territoire. Les choses se passent relativement bien parce que l'armée du Kuomintang est bien organisée, elle est bien équipée. On a des chefs qui ont été formés dans une académie militaire. Chiang Kai-shek lui-même est formé par les Russes dans une académie militaire créée pour former les cadres de l'armée du Kuomintang. En face, les seigneurs de la guerre sont assez mal équipés. C'est pas des armées très bien ni organisées ni très décidées à défendre. Hein. C'est des espèces de bandes de pillards, relativement sophistiquées, on pourrait dire, mais ils n'ont aucune envie vraiment de mourir. Donc souvent les seigneurs de la guerre en fait font une forme d'alliance quoi avec l'armée du Kuomintang, c'est-à-dire que les armées sont intégrées dans l'armée du Kuomintang, ou alors on fait un accord avec le seigneur de la guerre X ou Y. Certains résistent, c'est pas systématiquement, mais assez souvent aussi on réussit à trouver un point d'accord. En gros, le seigneur de la guerre devient fonctionnaire du territoire qu'il occupait, et il déclare que maintenant, évidemment, il n'est qu'un fonctionnaire, et qu'il va obéir au gouvernement. Donc, il va s'installer dans la ville de Nankin, qui est pas très loin de Shanghai, qui va s'installer en 1928. Donc, les choses se passent plutôt bien, sauf avec évidemment le Parti communiste, parce que le Parti communiste, lui, joue sa carte. Il n'est pas décidé, puis de toute façon il ne peut pas véritablement s'opposer de front au Kuomintang, mais il joue notamment sa carte à Shanghai. Il est relativement puissant à Shanghai, et en fait le Parti communiste prend le pouvoir à Shanghai avant que les troupes du Kuomintang arrivent, ce qui évidemment pose un problème majeur. La ville est sous le contrôle du Parti, la capitale économique de la Chine est de très loin. Donc est sous le contrôle du Parti communiste, et pour Chiang Kai-shek c'est une manœuvre qui est absolument insupportable, et donc il va rompre avec le parti, massacrer l'essentiel des membres d'ailleurs du parti. Quand il réussit à les attraper, il y a des exécutions capitales, etc. C'est absolument affreux, c'est raconté notamment dans le livre de Malraux, tout n'est pas vrai dans le livre de Malraux, notamment l'histoire où on jette des gens dans les chaudières pour faire avancer les locomotives, tout ça, par exemple, ça c'est n'importe quoi. Mais il raconte un certain nombre de choses vues du côté du Parti communiste, évidemment, mais c'est pas inintéressant. Et le Parti communiste est totalement laminé. En fait, le parti ne retrouvera des couleurs que dans les années 1936. 36-37, c'est-à-dire à l'époque de la lutte contre le Japon, de la guerre contre le Japon. C'est assez connu maintenant. En fait, c'est les Japonais qui vont sauver le Parti communiste d'une certaine façon, en déclarant la guerre. Évidemment, c'était pas leur objectif, a priori, mais en déclarant la guerre, en obligeant une nouvelle fois le Kuomintang et le Parti communiste à se remettre ensemble contre une nouvelle fois une force commune qu'il s'agit d'éliminer. Donc, les seigneurs de la guerre sont écartés, on pourrait dire, les communistes sont écartés, il y a quelques troupes qui résistent, mais ils vont en fait se réfugier dans des espèces de maquis, des guérillas, dans des régions difficiles d'accès, des tout petites guérillas, hein, souvent rassemblant quelques milliers de soldats. Mais disons que jusqu'en 1937, on n'entend plus tellement parler des communistes, un petit peu, mais relativement peu. La Chine redevient, hein, unifiée sous l'égide de Chiang Kai-shek, et on peut penser que voilà, on a enfin un gouvernement, enfin un nouveau régime qui s'installe. Hein, Chiang Kai-shek officiellement explique que le Kuomintang maintenant s'installe, il y aura des élections, il y aura d'ailleurs des élections en question, on va redevenir un territoire normal avec un gouvernement, etc. etc. En réalité, ce nouveau pouvoir est extrêmement fragile et Chiang Kai-shek n'arrivera jamais véritablement à mettre en place un régime politique stable. Hein. Il réussira à le faire à Taïwan, mais en tout cas il ne réussira jamais véritablement à la faire sur le territoire continental. Pourquoi fragilité de ce pouvoir? D'abord parce que les étrangers sont toujours là, c'est-à-dire que c'est pas parce que de nouveau il y a un gouvernement que les étrangers vont donner leurs usines, qu'ils vont rétrocéder les concessions, etc., etc. Les seuls à faire ça, ce seront les Russes. Hein, après la révolution de 1917, hein, les Russes, mais pour, encore une fois, pour d'autres considérations, hein, c'est parce qu'ils voulaient justement se rapprocher du Kuomintang, vont renoncer à leur droit, hein, qui leur avait été assuré par les différents traités du 19e siècle. Mais tous les autres gardent leur pouvoir, gardent leurs concessions, gardent leurs troupes, hein, qui contrôlent une bonne partie de la Chine, et notamment de Shanghai. C'est-à-dire, voilà un pouvoir qui s'installe, qui est censé contrôler l'ensemble du territoire. Or, toutes les grandes villes, qui sont les poumons économiques du pays, ne sont pas sous la juridiction de ce gouvernement. Hein, les étrangers restent quand même globalement les maîtres de l'économie chinoise. Deuxième élément, évidemment, qui est extrêmement important, c'est que les seigneurs de la guerre sont toujours là. Je disais tout à l'heure que beaucoup avaient donné leur accord finalement, etc., etc. Mais évidemment, ils oublient évidemment le lendemain leur bonne disposition et en fait très régulièrement, des seigneurs de la guerre refusent d'obéir aux ordres du gouvernement de Nankin, décident de lever des taxes, mais à leur profit, sans donner un copec, sans donner un yuan au gouvernement central. Donc le pillage continue. Hein. Le pillage des richesses, le pillage évidemment de la production agricole, etc., etc. Tout ça a vraiment du mal à rentrer dans les caisses de l'État. Donc cet État est un État qui est financièrement extrêmement fragile et qui ne vit globalement que grâce à des emprunts. Des emprunts qu'ils vont évidemment obtenir de qui? Des étrangers. Donc vous voyez la complexité de la situation de ce gouvernement du Kuomintang qui est censé bouter hors de Chine les étrangers, plus ou moins progressivement, en tout cas retrouver une souveraineté sur l'ensemble des territoires, mais dépendant en fait financièrement des étrangers. On a aussi évidemment ces guérillas communistes qui restent, hein, qui sont encore une fois pas très importante parce qu'elle touche des régions assez éloignées des centres économiques, etc. Mais disons que c'est encore un autre problème. Il faut de temps en temps envoyer des troupes pour essayer de déloger ces communistes, etc., etc. On ne peut plus s'appuyer sur le RSS. L'URSS, évidemment, ne veut plus collaborer avec le Kuomintang, étant donné que le Kuomintang a massacré les communistes et le Parti communiste chinois est interdit, évidemment, sur le territoire contrôlé par le Kuomintang. Donc, on est dans une situation donc qui est évidemment extrêmement fragile pour ce gouvernement. Il est aussi extrêmement fragile parce que l'âge d'or du capitalisme chinois est terminé. Il est terminé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique, on vient de le voir, mais aussi qui ont évidemment à voir avec la politique, parce que la bureaucratie du Kuomintang, évidemment, a pris le contrôle des opérations. L'économie chinoise, à partir de 1928, est une économie très, très, très largement contrôlée par l'État, régulée par l'État, c'est normal, mais en même temps contrôlée par l'État. On a le début de ce qui va se poursuivre jusqu'en 1949, sur le continent, c'est-à-dire le contrôle par un certain nombre de cliques familiales, essentiellement, de l'activité économique. Et sur ce plan-là, Chiang Kai-shek n'est pas le dernier à profiter de la situation parce que sa dernière femme, il a eu beaucoup de femmes, il a eu 4 femmes, quelques concubines, des maîtresses, etc., mais officiellement 4 femmes. Et la dernière, c'est une famille de capitalistes chinois assez connus qui s'appelle les Song, qui est une famille assez curieuse puisque ils sont 2 sœurs et un frère. Une sœur sera jusqu'aux années 80 sera un des personnages très importants de la politique sur le continent. Elle sera pas membre du Parti communiste, mais elle va occuper des positions très 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 fortes, très très importantes à l'intérieur de l'appareil du parti jusque dans les années 80. La deuxième sœur est la femme de Chiang Kai-shek. Oui, donc vous avez les 2 sœurs qui sont une à Taïwan, qui seront une à Taïwan et une sur le continent à partir de 1949. Et le petit frère qui, lui, est un financier de haut vol, qui va en fait contrôler l'ensemble, une grande partie de l'économie chinoise jusqu'en 1949. Et tout ce beau monde pille allègrement en fait les ressources. Ils ont une conception qui est une conception tout de même assez mafieuse. Des activités économiques. Ça sera d'ailleurs une des raisons de la victoire, on va le voir, du Parti communiste. Autre élément qui est aussi important et qui explique que ce gouvernement du Kuomintang est extrêmement fragile, c'est la pénétration de plus en plus radicale du Japon sur le territoire chinois. À partir de 1932, le Japon se fait de plus en plus pressant. Il est clair que le Japon veut transformer une partie, relativement peu ambitieux, une partie du territoire chinois pour en faire une colonie de peuplement. La colonisation japonaise, des particularités, c'est que c'est une colonie, c'est assez rare quand même globalement, en tout cas à cette époque-là, ça a été le cas évidemment aux Amériques, Nouvelle-Zélande, etc. Mais enfin, bon, le 19e siècle c'est quand même assez rare. Une colonie de peuplement, c'est-à-dire que vraiment on veut envoyer, et on a envoyé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers à certaines époques, de ressortissants japonais venir s'installer. C'est ce qui s'est passé à Taïwan, c'est ce qui s'est passé en Corée, évidemment, puisque ces territoires étaient devenus japonais depuis à partir de 1895. Mais c'est le cas aussi dans toute la Mandchourie, dans tout le nord-est de la Chine, où on veut faire vraiment de ce territoire, et sans doute on a aussi l'ambition, c'est très clair, d'aller encore un petit peu plus loin, pour s'installer, de faire vraiment de cette partie de la Chine un territoire proprement chinois. Évidemment, ça ne va pas dans, évidemment, là aussi, dans le renforcement du pouvoir du Kuomintang, puisque une partie du territoire lui échappe, et que il doit évidemment financer aussi des troupes pour résister à la pénétration japonaise. Il y a des incidents, on reviendra un petit peu plus loin là-dessus avec les troupes japonaises. Donc là aussi encore une cause de dépenses d'argent, de dépenses budgétaires pour renforcer la puissance militaire du Kuomintang, puisque on doit résister aux Japonais. Je vous passe aussi, évidemment, parce que là, c'est une tendance qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus lourde, je vous passe évidemment un autre phénomène qui peut expliquer pourquoi le pouvoir du Kuomintang est très faible, c'est l'appauvrissement général de la population, mais là, rien de particulièrement nouveau. Depuis le 19e siècle, on continue à avoir de plus en plus de gens sur de moins en moins de terres, des catastrophes naturelles qui ne cessent d'éclater un peu de partout, une quantité absolument énorme de réfugiés qui sillonnent la Chine dans tous les sens pour essayer de trouver un endroit, le développement du banditisme, d'ailleurs qui est parfois d'ailleurs pas très éloigné des guérillas communistes dont je parlais tout à l'heure, un certain nombre de paysans sans occupation devenant communistes, devenant soldats, chez les communistes ou chez les seigneurs de la guerre aussi, parce que de toute façon ils n'ont pas tellement le choix. Et le problème, c'est que on a très peu d'initiatives sur le plan politique durant ce qu'on appelle la décennie de Nankin, puisque ça dure de 1928 en 1937, ce pouvoir nationaliste, cet État nationaliste, très peu d'initiatives pour changer les choses. La société chinoise reste fondamentalement une société du 19e siècle. Depuis le 19e siècle, rien de nouveau. On continue à avoir 10% des familles qui contrôlent 50% des terres, 30% de paysans, de petits paysans qui en possèdent 30% des terres, mais qui ont des lopins extrêmement petits, donc on peut très bien être propriétaire, mais être propriétaire d'un hectare ou d'un demi-hectare, et donc c'est bien évidemment pas suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille. Beaucoup donc de paysans n'ont rien, ou même s'ils ont un petit peu de terre, ils en ont évidemment pas assez pour survivre. Et là, très peu d'initiatives. Il y a des initiatives, on essaye de développer de nouvelles techniques culturales pour améliorer la productivité, il y a un certain nombre de mises en chantier de fermes modèles pour changer un petit peu les choses, on essaye, il y a quelques initiatives pour éduquer les paysans, où l'analphabétisme est extrêmement courant, mais aucune initiative pour faire notamment quelque chose qui sera absolument essentiel, qui est une réforme agraire, c'est-à-dire de faire de la Chine un pays de propriétaires, mais de propriétaires de surface suffisante, avec évidemment ce qui sous-tend aussi évidemment l'idée d'industrialisation, les deux étant évidemment liés. Vous savez qu'en économie, le développement économique s'appuie sur deux éléments, d'un côté des transformations sociales dans les campagnes, ce qui permet de libérer un certain nombre de bras, ces bras étant utilisés évidemment en ville pour développer des activités industrielles. C'est comme ça à peu près dans tous les pays qui ont connu un développement économique. Mais pour que ça marche comme ça, il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait des initiatives, il faut qu'il y ait un État qui soit décidé à transformer et à moderniser les choses, quelles que soient les formes que peut prendre ce genre d'initiative. Alors, juste un mot à cette époque-là, avant de rentrer dans la dernière phase, qui est la guerre contre le Japon, un petit mot quand même du Parti communiste, je disais des petites guérillas, etc. Il y a quand même quelques petites choses qui changent. Jusqu'en 1945, on peut dire personne ne les prend trop au sérieux, ces communistes. Ils sont d'ailleurs difficiles souvent à distinguer des bandes de brigands. Ils se replient donc à partir de 1928 dans de petites guérillas. Chiang Kai-shek essaye de les déloger. Ça marche pas trop bien jusqu'en 1934 où ils décident là quand même de liquider hein, les communistes et en fait de les repousser à l'ouest. En fait, hein. Il y a manifestement la volonté de les repousser le plus loin possible vers les déserts. Hein. On n'a pas envie de dépenser trop d'énergie pour vraiment les éliminer totalement, mais on veut les écarter le plus loin possible des zones côtières. Donc c'est le début de ce qu'on appelle la longue marche, hein, qui va être à la fois une catastrophe totale pour le Parti communiste et en même temps finalement le début de, hein, de le début du début, on pourrait dire hein, la longue marche est 1934 octobre 34 octobre 35 pour vous donner quelques indications relativement simples. C'est 130 000 soldats au début, c'est 30 000 soldats à la fin. Avec alors vraiment des aventures pas possibles, ils vont aller, ils vont reculer, ils vont avancer, enfin tout ça, bon ça dure un an, donc vous imaginez que ça dure, c'est un peu compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à ce moment-là, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, en fait, le Parti communiste est une force à l'époque qui va subir une espèce de métamorphose totale. C'est plus du tout un parti communiste classique. Hein. Le parti communiste, à partir du grand bond, décidément, à partir de la longue marche, c'est une force militaire, c'est une armée. Point. Hein. Y a un parti évidemment qui contrôle tout ça, mais c'est un parti de chefs de bande, c'est un parti de généraux. Il n'y a plus guerre d'intellectuels là-dedans, en tout cas dans les postes dirigeants. Ce sont vraiment des guerriers, on pourrait dire, qui vont se transformer peu à peu en militaires un petit peu plus, un petit peu plus formés et un petit peu plus ressemblant plus à des militaires classiques. Donc ça va se faire à travers tout un tas d'aventures diverses à varier. Donc ça c'est le premier point. Le parti n'a plus rien à voir avec une force prolétarienne qui se bat sur pour les paysans, etc. Hein, ça c'est terminé. Et deuxième point important, c'est une armée, et c'est une armée qui n'arrête pas évidemment d'être confrontée à des luttes entre les chefs, là aussi, hein, dont finalement Mao va sortir vainqueur. Définitivement dans les années 40, bon c'est un peu plus fragile dans les années 30, mais à travers alors tout un tas de coups fourrés, de crapuleries absolument sans nom. Si vous voulez les détails, vous lisez le Mao de le gros bouquin là, il s'appelle Mao de Monsieur et Madame Hallyday, hein, qui vous raconte absolument tous les détails. Mais c'est assez édifiant la façon dont le pouvoir du Parti communiste s'installe et finalement réussira à prendre le pouvoir en 1949. Donc, avant-dernier temps, on pourrait dire, de cette époque, vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements, hein, ça bouge dans tous les... C'est la guerre sino-japonaise. Il faut savoir, effectivement, que on peut dire qu'aujourd'hui, avec le recul, la Deuxième Guerre mondiale commence en Chine. Hein. Pourquoi ? Bah parce que non seulement c'est une guerre entre le Japon et la Chine, mais c'est une guerre qui déjà fait intervenir des puissances européennes, relativement marginalement, mais tout de même de manière quand même relativement significative. Je parlais tout à l'heure, à partir de 1932, il y a une forte poussée japonaise. Il y a déjà l'incident de Mukden en 1931, compté là aussi dans le Lotus Bleu, l'attentat en fait organisé par le Japon lui-même pour faire sauter une voie ferrée accusant des communistes, etc., et en profitant du coup pour prendre le contrôle en fait de l'ensemble de la Mandchourie. Proclamé ensuite en 1932 un nouveau pays, transformant cette Mandchourie en Manchukuo, donc le pays le pays en fait des Mandchous, on pourrait dire, donc mettant comme chef de l'État l'ancien dernier empereur, hein, donc si vous avez vu le film Dernier Empereur, vous devez avoir des souvenirs par rapport à tout ça. On a été recherché dans le Dernier Empereur pour le mettre ça tombe bien, il était mandchou, hein, évidemment, donc ça tombe bien, donc en le mettant à la tête de ce pays, qui sera d'ailleurs reconnu par très peu de pays, hein, ça, on appelle l'état fantoche du Manchukuo, mais contrôlé évidemment par les Japonais. Les troupes japonaises essayent de renier un morceau de la Mongolie. Il y a des incidents aussi à Shanghai, entre des troupes dans la partie qui est contrôlée de Shanghai, qui est contrôlée par les troupes du Kuomintang, des incidents entre des troupes japonaises et des troupes des troupes chinoises, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut noter que les troupes japonaises lèvent des troupes chinoises et créent tout le long de leurs conquêtes successives du territoire chinois des gouvernements pro-japonais. Hein, on a une espèce de système un petit peu qui nous rappelle des souvenirs, si vous voulez, où vous avez à la fois le général de Gaulle, le maréchal Pétain, et les Allemands, ben là vous avez Chiang Kai-shek qui va être obligé de, à partir de 1937, donc où il y a une vraie guerre qui est déclenchée, va être obligé de se réfugier dans l'ouest de la Chine. Le principal opposant à l'intérieur du Kuomintang, qui s'appelle Wang Tingwei, qui se rallie aux Japonais et qui crée à Shanghai un gouvernement officiel chinois mais collaborationniste, donc lui c'est le maréchal Pétain, on pourrait le dire, si on veut faire des comparaisons. Donc le général de Gaulle c'est Chiang Kai-shek, Wang Tingwei c'est le maréchal Pétain, et on a évidemment les Japonais qui remplacent là les Allemands dans ce jeu à trois voix. Donc il y a des troupes chinoises, hein. Alors là, on pourrait appeler ça la milice, hein, des troupes ou la Waffen-SS Charlemagne, on peut continuer, mais beaucoup plus, en quantité beaucoup plus importante. Hein, c'est plusieurs centaines de milliers de gens, remarquez, bon, à l'échelle de la Chine finalement, ça n'est pas tant que ça, mais enfin, c'est une vraie armée collaborationniste, hein, qui se battent avec les Chinois. Alors, je dis que c'est déjà dès le départ la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Bah parce que les Européens se mêlent de l'affaire. Par exemple, il faut savoir que jusqu'en 1938, l'Allemagne nazie soutient Chiang Kai-shek. Pourquoi ? Ben, pour des raisons à la fois justement, disons, de méfiance vis-à-vis du Japon. On se méfie, hein. Il n'y a pas encore d'alliance entre l'Allemagne nazie et le Japon. Mais aussi parce que le Kuomintang a un virage fascisant. Hein. Le Kuomintang crée une organisation qui s'appelle les chemises bleues, hein, chemises noires, là on a les chemises bleues, donc qui est une organisation fasciste, hein, qui est une des tendances importantes à l'intérieur du Kuomintang. Chiang Kai-shek a des velléités, disons, fascisantes. C'est pas un problème pour lui, le fascisme, puisqu'il est nationaliste, il est anticapitaliste, hein. Il n'aime pas du tout le capitalisme. Voilà, il est assez mûr, disons, pour une virée vers les eaux du fascisme. Donc très bon rapport entre Chiang Kai-shek et les nazis jusqu'en 1938, où là il y aura un basculement des alliances en Europe qui obligera évidemment, hein, à les Allemands à arrêter. de soutenir Chiang Kai-shek. L'URSS arrive de nouveau, redevient un personnage important. Pourquoi ? Bah parce que en 1937, il y a un vaste mouvement d'opinion en Chine pour qu'on arrête de poursuivre les communistes et qu'on s'allie aux communistes pour lutter contre l'ennemi japonais. Hein. Chiang Kai-shek a beaucoup hésité, d'ailleurs il a, d'une certaine façon, il avait raison, dès le départ, il considérait que s'allier avec les communistes contre les japonais, il y avait un risque, c'était de renforcer les communistes. Il aura absolument raison sur ce plan-là. Mais il est forcé, y compris par des gens de son armée, hein. Il va être kidnappé pendant quelques temps par un général de l'armée du Kuomintang pour l'obliger à s'allier de nouveau avec les communistes contre les Japonais. Donc, retour de l'URSS. L'URSS redevient un soutien fort du Kuomintang. Et aussi, intervention des Américains. Le gouvernement américain avait des rapports très étroits avec Chiang Kai-shek. Vous voyez, Chiang Kai-shek était quand même un bon politique, sans doute un mauvais militaire, mais un bon politique sur ce plan-là. Chiang Kai-shek avait des rapports très étroits avec des milieux américains un peu particuliers, qui étaient les milieux missionnaires. Lui-même était s'était converti. Sa femme aussi était une dame patronesse très, très active, très, très puissante, avec des rapports très étroits avec les missionnaires protestants américains. Et donc il y avait une opinion politique qui était pro Chiang Kai-shek à cette époque-là. Donc là, aide américaine, aide un peu discrète, parce que bon, on ne veut pas rentrer quand même en conflit direct avec le Japon, mais aide quand même sous la forme en fait de volontaires, hein, militaires américains qui quittent l'uniforme américain pour prendre l'uniforme japonais, chinois, mais bien évidemment. Personne n'est dupe. Hein. On sait que ce sont des troupes, en fait, peu nombreuses, mais quand même significatives, notamment des aviateurs, qui vont aider le Kuomintang. Donc, on voit très bien qu'il y a là des éléments qui annoncent la Deuxième Guerre mondiale, hein, déjà conflit entre larvé, mais entre les Japonais et les Américains, hein, on est dans le Pacifique, hein, et bien évidemment, tout ça ne va mettre quelques années à se mettre en place, mais on a déjà les ingrédients, effectivement, de la guerre. De la Deuxième Guerre mondiale. Alors, tout ça se terminera, ça vous savez un petit peu comment tout ça va se terminer. Au début, donc, le Japon envahit tout, hein, c'est encore plus fort que les Allemands, hein, quand on voit les territoires qu'ils ont réussi à contrôler, c'est absolument fabuleux, un véritable rouleau compresseur, et puis ça s'essouffle, les Américains rentrent dans le jeu, c'est la faute des Japonais aussi, évidemment, Pearl Harbor, etc., et finalement tout ça se termine donc par la défaite du Japon. Alors, que se passe-t-il, dernière période, 1945-1949, pour expliquer la victoire du Parti communiste, un petit peu comme on a expliqué la disparition de l'Empire en 1911, on peut dire que le Kuomintang, là aussi, implose. C'est le Kuomintang qui se suicide par des politiques qui vont tout à fait à l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. Au début, évidemment, en 1945, le Kuomintang est quand même relativement puissant. C'est quand même lui qui avait supporté, réussi quand même à l'essentiel de l'effort de guerre. Donc il ressort évidemment grandi de la confrontation. Mais le Parti communiste sort alors décuplé, multiplié par 100 par la guerre, parce qu'il a évidemment profité des livraisons d'armes américaines, de la puissance soviétique, et les soviétiques, très intelligemment, prennent le contrôle en 1945 de tout le nord de la Chine. Et le nord de la Chine est une puissance industrielle qui n'est pas négligeable, merci au Japon, hein, qui a industrialisé la région. Et évidemment, la puissance du Parti communiste, qui est surtout située dans le nord, peut s'appuyer, hein, en arrière-plan, évidemment, sur l'URSS. Hein, l'URSS et les zones contrôlées par le Parti communiste ne font qu'un bloc. Hein, donc on a vraiment le nord et le sud. Mais les défauts, le Parti communiste, le Kuomintang reste quand même dominant militairement jusqu'en 1947, mais à partir de 1947, on va voir que la situation bascule en faveur du Parti communiste. Jusqu'à 1947, disons que des phases de conflits sont intercalées avec des phases intercalées avec des phases de négociations. Hein. On va beaucoup négocier jusqu'en 1947. Après 1947, c'est à peu près terminé parce que tout le monde veut la paix, on pourrait dire. Hein. Personne ne veut véritablement d'un conflit, d'une guerre civile. Ni les Américains qui déjà trouvent que ça fait beaucoup quand même, hein, plusieurs années de guerre. Bon, on va passer à autre chose. Donc, les Américains veulent une paix, veulent une négociation, hein, et sont assez mécontents de la façon dont Chiang Kai-shek traite l'affaire. Hein, Chiang Kai-shek est très agressif, il n'a aucune confiance dans le Parti communiste. D'ailleurs, il a sans doute pas tort, hein, historiquement. Hein, on voit mal comment historiquement ça aurait pu se passer autrement que par une guerre civile. Mais les Américains, eux, pensent qu'il y a des solutions politiques, on peut trouver des solutions entre le Parti communiste et le Kuomintang. Staline non plus n'est pas très favorable à l'époque à une guerre civile, loin de là. Il faut savoir que jusqu'au bout, Staline sera persuadé que Mao, de toute façon, est un nul et qu'il n'arrivera jamais à reconquérir le territoire. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que le Parti communiste soit une force dominante, on pourrait dire, mais il ne pense pas, il n'a aucune confiance dans la capacité du Parti communiste véritablement à reprendre l'ensemble du territoire, à recontrôler l'ensemble du territoire. Il n'en a d'ailleurs pas très envie non plus, parce que, évidemment, c'est un gros morceau. Hein. L'RSS domine le mouvement communiste international. Évidemment, c'est un point d'appui d'avoir un pays comme la Chine éventuellement devenant communiste, mais en même temps, c'est une concurrence. Mais là aussi, aussi bien sur le premier point, il se trompe. Hein. Mao, plein de défauts, mais il saura prendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Sur le deuxième point, il a raison, puisque très rapidement... Hein, la Chine va devenir un concurrent de poids pour l'URSS. Donc on essaye de négocier. Pendant ces négociations, la situation dans les zones où se trouve le Kuomintang se détériore d'une manière absolument catastrophique. Et en fait, ça sera le contraste, d'une certaine façon, entre ce qui se passe dans les zones communistes et dans les zones du Kuomintang, qui vont finalement donner l'avantage au Parti communiste. Qu'est-ce qui se passe dans les zones qui sont contrôlées par le Kuomintang? Eh bien, le pillage économique continue de se faire. Le Kuomintang est toujours complètement incapable, divisé par des cliques mafieuses, des cliques familiales, de faire aucune sorte de réforme. Il va, pour lutter contre les communistes qui sont son obsession, il va faire jouer la planche à billets d'une façon absolument phénoménale. Il faut savoir que en 1948, durant un des mois de l'année 1948, l'inflation va atteindre 5000% en un seul mois. Donc un phénomène d'hyperinflation absolument catastrophique qui va à lui seul complètement saper toute autorité du Kuomintang dans les villes. Plus personne n'a confiance dans les capacités du Kuomintang à gérer le pays. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens influents vont abandonner le Parti communiste pour aller rejoindre les troupes du Parti communiste. Des paysans aussi en nombre vont forcer ou par choix, souvent forcer, mais parfois aussi par choix, quitter les troupes du Kuomintang ou directement s'engager dans les troupes du Parti communiste parce que lui, le Parti communiste, il annonce une réforme agraire. Il annonce des transformations. Le Parti communiste contrôle des zones pauvres, mais où règne l'ordre, où règne un semblant d'égalité. Évidemment, on sait bien que tout ça est un peu aussi lié à la propagande, mais ça n'a rien à voir avec les inégalités absolument profondes que l'on trouve dans la société, dans les zones contrôlées par le Kuomintang. Donc il y a un basculement assez rapide en 2 ans de l'opinion publique chinoise vers le Parti communiste. Et donc, finalement, militairement, les troupes du Kuomintang vont se déliter et vont perdre peu à peu du terrain pour être obligés ensuite de se réfugier à Taïwan. Alors, 2 mots peut-être de conclusion, on pourrait dire, hein, pour donner un peu quelques idées qui me semblent quand même dans toute cette époque un peu confuse et complexe, des quelques points de repère analytiques. On peut dire que ressort de cette période le fait que finalement la Chine ne va jamais se remettre de la fin de l'Empire. C'est à partir de 1949 qu'on va avoir un véritable nouveau régime, mais pendant ces quelques 30 ans, on sera incapable en fait de se remettre de la disparition de l'Empire. Deuxième, donc il y a un vide politique, on pourrait dire, hein, qui est absolument total, vide politique qui sera, encore une fois, rempli par les questions militaires. En fait, toute l'histoire récente de la Chine est une histoire militaire, toute, oui, y compris, évidemment, à Taïwan, à partir de 1949, où le pouvoir qui s'installe est un pouvoir militaire, mais aussi sur le continent à partir de 1949, puisque les militaires, quand même, continuent de jouer un rôle très important. Encore aujourd'hui, vous savez que le monsieur qui vient d'être élu donc secrétaire du Parti communiste, Xi Jinping, sera bientôt élu président de la République, mais surtout il deviendra président de la commission militaire du comité central. Hein. Et c'est sans doute la position, position absolument centrale. C'est-à-dire qu'on doit être les trois à la fois, aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour être le premier personnage du pays. Deuxième élément très fort, vous voyez que toute cette période est une période où le nationalisme, l'anticapitalisme et la notion de révolution, on pourrait dire, jouent un rôle extrêmement important. Et le Kuomintang à Taïwan restera lui aussi anticapitaliste. Hein, il faut savoir que le développement économique à Taïwan sera basé pour l'essentiel sur le développement de grandes entreprises contrôlées par les hiérarques du Kuomintang. On aura le développement d'un petit capitalisme local, des petites et moyennes entreprises, etc. Mais le cœur des grandes entreprises, pour l'essentiel, les grandes entreprises de Taïwan continueront à être contrôlé par des grandes familles du Kuomintang. Donc c'est l'époque, hein, c'est l'époque où la modernisation, c'est pas que l'époque dans le coin, mais c'est l'époque aussi à l'intérieur du monde entier, où on conçoit pas un développement économique, une modernisation sans un pouvoir fort. Hein. Bon, aujourd'hui on a des conceptions un petit peu différentes, mais à l'époque cette notion, hein, nécessité d'avoir un parti fort, d'avoir des structures étatiques extrêmement puissantes pour développer un pays, était vraiment au cœur des réflexions intellectuelles. Et le dernier point, c'est celui qu'on a vu hein, à plusieurs reprises, c'est ce jeu très complexe des puissances occidentales sur le territoire chinois, où on voit ce jeu complexe entre démocratisation, hein, quand on va dans ces pays, quand on va en Chine ou quand on va dans des colonies, on explique qu'il faut démocratiser le pays, que la démocratie est le meilleur système politique, etc. Et en même temps, on a des attitudes et on a des politiques qui sont mises en place qui sont un petit peu différentes. Donc ce qui s'est passé en Chine, que l'on a décrit donc succinctement, rejoint toutes les ambiguïtés hein, de cette époque de la colonisation. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était un petit peu long comme d'habitude, mais on a encore quelques minutes pour les questions. On se marre.